pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire a fait le tour du monde et d'Internet. Elle fait partie de celles que les geeks appellent les no-no-no yes stories. Des histoires tellement mal parties qu'on est prêt à parier qu'elles se finiront très mal avant qu'un rebondissement final ne sauve la mise de justesse. Le héros de cette histoire est britannique, il s'appelle Tim Lancaster et à l'époque où se déroulent les faits, il est commandant de bord pour la British Airways. Le 10 juin 1990, son avion fait la liaison entre Birmingham et Malaga. 13 minutes exactement après le décollage, dans le cockpit, la partie gauche du pare-brise est arrachée. Il survient alors ce qu'on appelle une décompression explosive, c'est-à-dire une baisse très brutale de pression dans la cabine. Tout ce qui n'est pas attaché s'envole, dont notre commandant de bord, Tim Lancaster, qui est littéralement expulsé de la cabine par le pare-brise. La moitié de son corps est projetée à l'extérieur de l'appareil, à 17 000 pieds. Par miracle, ses pieds, eux, restent pris par le manche de l'avion. Il faut donc imaginer ce Britannique plaqué contre l'extérieur de la carlingue et retenu seulement par le bas. On dirait une blague de « y a-t-il un pilote dans l'avion ?» mais tout ça s'est réellement passé. En même temps, comme ses pieds entravent le manche de la commande, l'appareil commence à piquer du nez. Alors, les collègues de Tim Lancaster, bien attachés, eux, dégagent ses pieds, puis le retiennent par les jambes. Le cockpit est envahi par une buée épaisse et par un bruit phénoménal. Le vent déferle à plus de 500 km/h, les pilotes manquent d'oxygène et ne peuvent plus communiquer entre eux. À l'extérieur du cockpit, Tim Lancaster, lui, reste collé contre l'avion à moins 17 degrés. Il a l'épaule démise et des engelures aux yeux et au visage. À ce moment, tout paraît perdu. Et les stewards qui le retiennent envisagent un temps de le laisser s'envoler pour se poser le plus vite possible quelque part. Mais le copilote refuse de le laisser partir. Il parvient à échanger avec un aiguilleur de l'aéroport le plus proche, à Southampton, et à se poser sur une piste du dit aéroport à 7h55. Tout le monde pense alors que Tim Lancaster est mort. Les secours arrivés sur place le récupèrent et tentent de le réanimer. Lorsque par miracle il reprend connaissance, les premiers mots qu'il prononce sont « Où suis-je ?» et « Où est mon portefeuille ?» Des réflexions qui deviendront ensuite une blague récurrente dans le milieu. 6 mois plus tard, Tim Lancaster recommencera à voler avec le flegme et la décontraction qu'on prête habituellement aux citoyens britanniques. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux autres histoires de vol en avion qui ont changé leur vie ou la vie pour le meilleur et pour le pire. Ce sont deux récits d'Élodie Maillot jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Yves Cusset, je suis... philosophe, ça c'est bien pompeux de dire ça, et en particulier en philosophie, je me suis ces derniers temps spécialisé dans les questions touchant l'accueil et le droit d'asile. Après, oui, j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur des questions proches pour évoquer ces questions-là sur le thème de passage des frontières. Donc, il y avait une équipe de plusieurs philosophes qui abordaient cette question en philosophie politique, celle du passage des frontières et au-delà du dialogue des cultures. Et c'est dans ce cadre-là qu'avait été organisé un colloque commun entre des chercheurs africains, essentiellement de République démocratique du Congo et du Cameroun aussi du Sénégal, du Rwanda, et des chercheurs venus de France. Ça s'appelait, je crois, Dialogue des cultures et passage des frontières. Voilà, et c'est dans ce cadre-là... Avec plusieurs collègues, on a été amené à prendre l'avion pour Kinshasa. C'était la première fois que j'allais en Afrique noire. Voilà, donc pour moi, c'était important de préparer ce voyage. Et en même temps, en prenant mon billet d'avion, je me suis dit, mais quand même, la RDC, je me doutais qu'il devait y avoir des reconduites pour la RDC dans l'avion, parce que c'était un pays où il y avait a priori pas mal de demandeurs, enfin en France, de demandeurs d'asile originaires de la RDC. Enfin, Moi, je peux pas faire le voyage comme si de rien n'était, avec mon plateau repas, tranquillement, et en train de relire ma conférence sur l'accueil, culture du dialogue. Non, dialogue des cultures et passage des frontières ou culture du dialogue ? Non, dialogue des cultures et passage des frontières, c'est ça. Bon, mais après, je me suis occupé de la préparation de ce voyage de manière assez égocentrée, inquiète. Donc j'ai oublié mes soucis d'ordre moral. Et le jour J, avant d'embarquer dans l'avion, et des policiers sont venus vers nous et nous donnant un papier indiquant qu'il y avait des gens qu'on reconduisait à la frontière dans cet avion et que... si on s'y opposait, on s'exposait à des poursuites judiciaires qui pouvaient aller jusqu'à 6 ans d'emprisonnement, je crois, et 70 000 euros d'amende. Et donc, je lis ça. Et du coup, en voulant me menacer, ils m'ont surtout rappelé que je ne voulais pas rester là passif si jamais il y avait des gens qu'on reconduisait chez eux de force dans l'avion. Si j'avais pas eu le papier, je l'aurais pas su. C'est grand, ces avions sont des longs courriers, il y a beaucoup de monde dedans. Et évidemment, ils montent avant dans l'avion avec les policiers, par l'arrière, ils se mettent bien au fond, ils sont quand même séparés des passagers. Les policiers savent être discrets dans ce cas-là. Donc, j'aurais pas eu ce papier, je n'aurais même pas su à la limite qu'il y en avait. Je m'en serais pas rendu compte. Donc là, on le savait, on est allé au fond et on leur a demandé « qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes avec des policiers ?» voilà, c'est là que les policiers nous ont demandé d'aller nous asseoir. Donc vous devez respecter la loi, vous n'avez pas à vous y opposer. Et bon, là, on leur a dit « si, en démocratie, on a le droit de dire notre désaccord avec la loi, même si la République nous impose d'y obéir hein. ». Ça a duré quelques minutes comme ça avec les policiers, mais ça se voit, c'est-à-dire que quand tous les passagers sont assis, qu'il y a 3 passagers debout, les gens se retournent et comprennent ce qui se passe. Ils ont compris qu'ils avaient affaire effectivement à des philosophes, et ça, c'est un peu emmerdé. Merde, encore un intellectuel de gauche, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Il y a eu des manifestations d'indignation de la part de Congolais dans l'avion. Ça aurait dû s'arrêter là. L'avion était retardé, et ils étaient embêtés. Ça commençait à être tendu, et quelques minutes plus tard, on a vu arriver une brigade de CRS dans l'avion. Je me souviens très bien de mon voisin de gauche, qui était un homme congolais relativement âgé. Il me dit « mon gars, toi, tu verras pas Kinshasa. Je suis désolé pour toi. » Je dis « ouais, je sais, moi aussi, c'est vrai, je m'étais bien préparé à ce voyage, mais voilà, le résultat. » Je disais ça en riant, parce qu'on avait besoin de se détendre après toute cette tension. Finalement, on disait ça avec une certaine légèreté, et puis... ils sont venus chercher mon collègue qui était derrière moi, ça je m'en souviens très bien, et qui à ce moment-là, en même temps qu'il était embarqué, s'est levé et a dit son nom, son âge, ça a décliné son identité devant tous les passagers, voilà, pour qu'il y ait un témoignage de ce qui se passe. Et il a été emmené vraiment brutalement. Bon, il ne résistait pas spécialement, mais ouais, il l'embarque quand même violemment, parce qu'ils sont obligés de prendre les gens un par un. Vous voyez, avec les couloirs des avions, ils viennent prendre quelqu'un, ils reviennent, hein, on ne peut pas en prendre plusieurs à la fois. Et ils ont bousculé quelqu'un en l'embarquant, c'était la confusion, ça bougeait beaucoup, et qui a protesté. Et il devait revenir me chercher, il y a un CRS qui m'a dit « bon, toi, t'es le prochain, on vient te chercher, faut assumer vos actes. Toi, avec ta chemise orange », qui fait que je me souviens que j'avais une chemise orange. « Faut arrêter de jouer les justiciers, faut assumer vos actes. On a des recommandations en haut lieu. » Je me souviens très bien de ces phrases-là, c'est vraiment très, très, très cow-boy, quand même. Et du coup, au lieu de venir me rechercher, moi... comme le type a protesté, ils l'ont embarqué aussi. Le pauvre qui voulait rentrer au Congo, moi je les ai on a attendu, hein, j'étais sûr qu'ils allaient venir me chercher. On n'a plus revu les CRS après, ils n'ont pas fait de troisième passage. Donc j'ai pu aller à Kinshasa, prendre l'avion, il a fini par décoller avec plus de 3 heures de retard. Et ensuite, pendant le voyage, on a pu discuter avec un certain nombre de passagers. Discussion beaucoup plus, presque philosophique, en tout cas politique. Cet espace de débat démocratique dont je me désolais qu'on en prive certains, on s'en est saisi là, dans l'avion. C'était vraiment ça, c'était un bel imprévu. C'est pour ça que le pilote a eu peur. Il a cru qu'on préparait une émeute à l'arrivée à Kinshasa. Au retour, c'est tout bête. Très franchement, j'avais oublié les menaces du policier. Bon, il m'a menacé, c'était que de la gueule, comme on dit. C'est parce qu'il se sentait inquiet, il a voulu jouer le cow-boy. Et donc, moi, je pensais que voilà, on allait pouvoir surtout retrouver notre collègue, lui dire comment ça s'était passé. Et on ne pensait pas que la police allait revenir. Et puis, on voit qu'au lieu de passer directement aux douanes, bizarrement, il y a un policier qui demande les passeports. À la sortie des passerelles d'embarquement, il demande tous les passeports, les gens, jusqu'à ce que ma collègue et moi, on lui donne notre passeport. Et qui nous dit si vous voulez bien venir sur le côté, très poliment, et qui nous dit « Excusez-moi, j'aurais quelques questions à vous poser au sujet de ce qui s'est passé à l'aller, si vous voulez bien me suivre. » Et nous, on est d'une grande naïveté. On aurait dû dire « Ben non. » Et évidemment, il n'a rien dit. Et une fois qu'on était dans les locaux de la police aux frontières, il nous a précisé qu'on était en garde à vue, voilà, qu'on pouvait appeler un avocat, etc. C'était la première fois que j'étais en garde à vue. La première fois que j'étais privé de liberté de cette manière-là. D'ailleurs, une partie, je l'ai fait en cellule solitaire. Ça, c'est très, 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 très long. Puisque quand on est en garde à vue, bon, c'est pas, on n'a rien. Ils vous enlèvent tout pour pas que... voilà, y compris vos lacets, mais évidemment, les livres, au cas où il nous viendrait à l'idée d'en manger les pages. Tout ce qui permet de s'occuper. Donc, je pouvais rien faire, j'ai chanté. Je me souviens que ça faisait rire les policiers. J'ai chanté du Joe Dassin, ils sont mis à chanter avec moi. Le policier qui m'a auditionné à la fin de cette garde à vue, policier noir, il m'a dit « Oui, enfin, moi, si j'étais à votre place, j'aurais fait la même chose. » Je ne sais pas si tous les policiers sont comme celui que j'ai rencontré. J'en doute. Ce n'était pas le cas des agents de la police aux frontières qui, eux, nous traiter plus de haut, disant « C'est quoi ces intellos de merde qui veulent nous donner la leçon ?» quoi. Vous allez voir, vous savez pas ce que c'est que les cellules de la police aux frontières, on va vous montrer qui c'est Raoul. Quoi. Donc ça a été une expérience de la garde à vue, et après ils m'ont mis dans une cellule avec d'autres gens, et là c'était vraiment des gens qui allaient être... expulsé. On n'est pas dans des espaces de sollicitude. Et je me souviendrai bien de ce Ghanéen, je me souviens qu'il est Ghanéen, qui ne parlait pas français, qui voulait aller jusqu'à Londres, qui se demandait bien ce que je faisais là, parce que dans cette cellule, il n'y avait que des Noirs, il voyait un petit blanc visiblement pas originaire, de même classe sociale, un petit bourgeois blanc. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je lui raconte l'histoire. Et là, il a trouvé ça ahurissant. Que moi... petit français blanc bourgeois, je me retrouve en cellule parce que je m'oppose à cette politique-là, alors là, ça lui paraissait presque plus inquiétant. Et c'est là qu'il m'a dit « What is France making? There is a problem with Europe. » Qu'est-ce que fait la France? Il y a un problème avec l'Europe. Évidemment, cette question-là, moi, ça m'a interrogé philosophiquement. Ça a changé... Comment vous dire ? Évidemment, ces questions, je me les posais déjà. Mais le fait que ça vienne dans cette situation et que la question soit posée par quelqu'un qui subit cette politique a changé mon regard. Parce que jusque-là, je me disais, moi, effectivement, bon, je suis un bobo sentimentaliste de gauche qui a envie de défendre ces gens-là. Ça n'a pas grand intérêt. J'écris pour ceux qui sont déjà convaincus. Et c'est un luxe. Moi, j'ai le luxe de pouvoir écrire là-dessus pendant que d'autres subissent ça de plein fouet. Un livre, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui peut justement produire de l'espace public. Le destin d'un livre, en tout cas, quand c'est pas un best-seller, c'est comme ça. Donc, je crois pas que c'est par là qu'on peut interpeller le public. Ça m'a donné envie aussi d'essayer de réécrire la chose de manière humoristique. De m'interroger sur l'engagement de manière humoristique, et même sur ces questions-là de droit d'asile, d'expulsion, de sans-papiers, de les approcher à la manière humoristique. Ce que j'ai fait juste après, dans un spectacle qui s'appelle « Le titre est à rallonge », attention, hein, « Petit manuel d'engagement politique à l'usage des mammifères doués de raison et autres hominidés un peu moins doués ». Où je reconstruis de manière fictive et assez libre cet incident-là.
Refusez d'obéir et ne laissez pas faire tous ces vols charters avec leur triste cire. Ne soyez pas complices par la passivité du pauvre chauvinisme de la prospérité. Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
Je devais partir avec ma mère, on avait un vol, on partait d'Orly, on allait jusqu'à Londres pour prendre après un vol direct jusqu'à San Diego. Nous partions rejoindre ma sœur pour ses 40 ans. Profiter tous ensemble, bien manger, bien boire, voilà. Se retrouver à l'étranger. Parce que d'habitude, c'est elle qui vient en France une fois tous les étés, elle vient un mois pour voir tous les amis et la famille. Et là, du coup, c'était nous qui allions la voir. On arrive à Orly, on a été acheter les magazines pour l'avion. On s'est posé, ma mère a bu son petit café. Mais il était tôt, on a dû arriver à Orly à 7h ou à 6h du matin, donc c'était tôt. Il faisait gris en France. On a passé la douane. C'était très drôle parce qu'elle a eu le droit d'être dépistée à la drogue, ça nous a fait beaucoup sourire. C'est dit, une femme de 70 ans, on n'a pas. Enfin, ça nous a fait rigoler. On s'est dit, ok, truc improbable. Puis après, nous monter dans l'avion pour aller en Angleterre, et puis on arrive à Londres. Mais le vol était court, et arrivé à l'aéroport, le temps de faire toute la correspondance pour passer les douanes et les choses comme ça, elle était vraiment, vraiment pas bien. J'ai demandé aux hôtes et aux stewards qui avaient dans l'aéroport s'il y avait une possibilité d'avoir une chaise roulante parce que ma mère, elle était fatiguée, qu'ils ont clairement vu qu'elle était fatiguée. Ils l'ont emmenée après dans le petit salon pour attendre le vol. Elle s'est un peu reposée dans le salon, elle a bu un petit peu, elle a mangé, on a rigolé. On a repris l'avion, le deuxième avion pour aller à San Diego. Elle était un peu plus devant, j'étais plus derrière. On commence à avoir le dîner qui nous est servi. Et je sais pas, à la fin du dîner, je commençais à vouloir regarder le film. Il y a un des stewards qui est venu me voir en me demandant si ma mère avait des médicaments ou si je savais où étaient les médicaments. Donc il essayait de me dire que ça allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc je me suis levée, on a été à la place. Et là, il y avait ma mère qui avait déjà le masque à oxygène sur son fauteuil. Et comme moi, je ne parle pas super bien anglais, c'est un petit peu compliqué de tout expliquer en anglais. Et donc du coup, ma mère, fidèle à elle-même, a enlevé son masque à oxygène pour râler après les stewards en leur disant de me laisser tranquille, que je parlais pas anglais et qu'ils me stressaient. Et là du coup, gentiment, j'ai regardé ma mère, j'ai dit « Maman, tout va bien se passer, c'est pas grave ». Le steward lui a dit de se calmer parce qu'elle était clairement en train de faire une attaque cardiaque. Et après en fait, elle a perdu connaissance, ils l'ont allongée. Et là, les stewards, le chef de cabine a dit au steward de m'éloigner pour pas que j'assiste la réanimation. Ils m'ont éloigné et lui, il a tenté la réanimation pendant plus de 45 minutes. Apparemment, le pouls est reparti 2-3 fois, mais pas assez. Donc, elle s'est quand même battue. Mais ils ont demandé aux gens aux alentours d'aller se déplacer parce qu'il y avait de la place. Ils ont mis en première, je pense. Ils ont allongé ma mère et ils l'ont recouvert le temps des 9 heures restantes du vol, je crois, quelque chose comme ça. Moi, j'étais au fond avec un steward gentiment qui essayait de me conforter, mais ces moments-là, c'était vraiment mon pire cauchemar qui s'est réalisé. J'avais juste pas envie de voir ça. Cette image, elle me hante, elle me hantera jusqu'à ma mort, ça c'est sûr. Parce que c'est la dernière image que je garde de ma mère. Et que c'est pas l'image qu'on a envie de garder de ses parents, et je pense surtout pas de sa mère. Surtout quand on a une relation hyper fusionnelle comme ça avec ma mère. Parce que j'ai essayé une vraie tanguine. J'habitais toujours chez ma mère, enfin on se ressemblait beaucoup. Même si elle pouvait m'agacer comme c'est pas possible sur plein de choses, que ça reste une maman. C'est ma maman, c'était ma maman. On était hyper fusionnels. Puis elle savait que pour moi, c'était mon pire cauchemar, ma pire angoisse, c'était de la retrouver morte. Il faut savoir que ma mère était cardiaque depuis plus de 30 ans. Elle avait eu son premier infarctus à 41 ans, j'avais 7 ans. Donc nous, avec ma sœur, on a toujours vécu avec l'épée de Damoclès en disant que de toute façon, notre mère, elle mourait jeune et que... Pour nous, on a grandi avec cette idée. En fait, elle a fait mentir les statistiques, puisqu'elle avait 71 ans. Mais ça faisait 3-4 ans qu'elle faisait de l'emphysème. C'est une dégénérescence pulmonaire, elle a fumé toute sa vie. Mais malgré les infarctus, elle a continué à fumer. Et puis, elle est un médecin, donc elle savait très bien ce qui était en train de se passer. Pas bête, hein, c'est son métier. Hein, donc, elle sait. Voilà. Les a eu les signes, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et ma mère était têtue, et elle avait une idée en tête, retrouver ses deux filles aux États-Unis. Même j'ai une dernière photo qui est avec elle, qui a été prise juste devant Orly. On voit qu'elle est toute pâle, toute fatiguée. Moi, jusqu'au bout, je voulais annuler, mais je peux pas la forcer. J'ai même dit à mes tantes, forcez-la à annuler, parce que moi, elle m'écoute pas. Mais non, mais tu connais ta mère, elle est fatiguée, elle est angoissée à cause du voyage. Je dis non, c'est autre chose, non, ça va plus loin que l'angoisse du voyage. Je me suis un peu disputée avec elle quelques heures avant sa mort. Ouais, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais bon. Je pense que si on avait pris sa tension, on lui avait fait un électrocardiogramme, on aurait certainement vu qu'il ne fallait pas qu'elle prenne l'avion. Mais après. Si on a quelqu'un en face qui dit non, je suis juste fatiguée, c'est tout, on peut pas forcer. Je pense qu'elle n'avait pas prévu qu'elle allait mourir dans l'avion, et surtout pas aux États-Unis, vu ce qu'elle pouvait penser des États-Unis. Elle n'aimait pas beaucoup les États-Unis.
Comment elle s'appelait, votre mère ?
Sylvie. Je l'appelais la reine-mère. C'était son petit nom. Donc mes cousines l'appelaient la reine-tante. Puis ça lui allait tellement bien, la reine-mère, que c'est ça, quoi, la reine-mère. Moi qui décide, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la reine-mère. Ça lui allait bien. Elle nous a fait une sortie, un tombé de rideau digne de la reine-mère. Parce qu'à chaque fois, elle me disait en rigolant, « Ah, mais je vais mourir d'un cancer, je vais avoir un cancer, je vais avoir un cancer. » Je lui disais que non, c'était beaucoup trop banal pour elle. Bah, j'avais raison. Blessure en elle qui n'était pas guérie, du coup c'était une écorchée vive. Elle a vécu des choses, elle a perdu sa maman très jeune, on lui a jamais clairement dit que sa maman était décédée, on lui a dit que sa maman était partie vivre aux États-Unis. Donc, pendant des années, elle a vécu avec ma mère, m'a abandonnée, m'aimait pas, alors qu'en fait elle a fini par découvrir que sa mère était tout simplement morte d'un cancer du sein, qu'elle n'avait pas abandonné. Et elle a mené des combats toute sa vie, et elle a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Donc elle a passé sa vie à militer pour les droits des femmes, pour les droits des enfants. Voilà, c'était ses combats. Elle a fait passer des gens de l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne de l'Est, dans son coffre avec sa meilleure amie. Elle partait en Suisse tous les étés. Elle ramenait des pilules pour elle et toutes ses copines, comme parce qu'il n'y en avait pas encore en France. Pilules contraceptives, elle a participé à des avortements illégaux, enfin elle avait plein de choses. Et puis après, sa deuxième passion, c'était les enfants. Elle était pédiatre anesthésiste, elle a travaillé à l'écart toute sa carrière. Et c'était son combat. Puis c'était une amoureuse de la vie aussi. Qui avait déjà perdu mon père, ça m'a ravivé plein de souvenirs et ça m'a rappelé plein de choses. Et je me suis juste dit, merde, j'ai perdu mon pilier, je vais être totalement perdue.
Vous lui en avez voulu ?
Ouais, je lui en veux encore. De m'avoir abandonnée, enfin ouais, vraiment. Hein. Pourquoi tu m'as fait ça, en fait ? D'avoir pris cet avion, de ne pas m'avoir écoutée. Pourquoi tu ne m'as pas écoutée ? J'avais raison. Non, j'en ai voulu. Je l'ai vu parce qu'elle m'a toujours protégée de plein de choses, parce que c'est son rôle de maman. Mais qu'à 35 ans, je ne savais pas faire une déclaration d'impôt, je ne savais pas remplir un arrêt maladie, parce qu'elle faisait tout pour moi. J'en profitais aussi, hein, soyons honnêtes. Mais ouais, pourquoi tu m'as autant protégée sur couvée ? C'est adorable, tu l'as fait, t'as fait tout ce que tu voulais, mais moi, du coup, je me retrouve à 35 ans dans ta maison de famille. J'ai un travail où je gagne pas beaucoup d'argent, rien que les factures, c'est le triple de mon salaire. Enfin, devoir tout gérer, des trucs que j'avais jamais géré. Mais ma mère m'a toujours protégée. Oui, j'en ai voulu parce que mon monde s'est écroulé, que la personne qui me connaissait le mieux, qui a toujours été là pour moi, qui était plus là. Pour moi, c'est un abandon. Après, ça fait reflet à mon histoire. Hein. Je suis une enfant adoptée, donc je pense que clairement, quand même, il y a une part de moi qui lui en veut. Une maman, c'est pas celle qui nous met au monde. Une maman, c'est celle qui est là. Elle aurait pas dû partir. Elle serait peut-être encore en vie. Du coup, moi, ça me fait culpabiliser parce que je me dis, mince, j'ai pas réussi à l'arrêter. Les derniers mots qu'elle a dit, c'était ses gestes d'amour à elle, c'était essayer de me protéger de tout le flot de questions qu'on me posait dans l'avion, en enlevant son masque à oxygène, en râlant, parce que c'était la spécialiste pour ça, en disant « Laissez ma fille tranquille, elle ne vous comprend pas, elle parle, enfin, laissez-la tranquille. » En fait, j'ai tout de suite dit, quand ma mère est morte, à ma famille, je vais m'éloigner. S'il en va de ma santé morale et mentale, je vais m'éloigner de vous. Moi qui étais très très famille, je suis clairement éloignée de ma famille. Moi, mon cœur il s'est brisé et je savais très bien que mon cœur il allait jamais se reconstruire. Les gens m'ont dit « Ouais, mais t'as changé. » Mais c'est normal. C'est normal que j'ai changé. Je serais plus jamais la même, et même si ma mère était morte de vieillesse, je pense que c'est effectivement, ça marque un peu plus. Mais on est marqué à vie. Et il y a une part de nous qui est plus là. Je suis plus la même. Quand j'ai perdu mon père, j'ai changé, je me suis entre guillemets reconstruit, en plus j'étais jeune, mais je me suis construit de manière adulte différemment. Donc je me suis rapprochée de ma mère, et c'est vrai que quand elle est morte, il y a une partie de moi qui est morte avec elle. Et même avec le temps, même si le temps fait son œuvre, en fait, le temps, il permet d'apprendre à vivre avec le manque.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec deux histoires de vol en avion. Un reportage d'Élodie Maillot réalisé par Philippe Baudouin. Merci à Yves Cusset, à Laetitia, à Nora Gauthier et à Émilie Daubresse. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Céline Autin, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une magnifique page Facebook et un compte Twitter de plus en plus fourni. Tout ça animé en grande partie par Céline Autin, notre stagiaire déjà mentionnée. Like a Madeleine, sometimes I feel like a Madeleine, a long way from home, a long way from home. Sometimes I feel like a Madeleine, sometimes I feel like a Madeleine, sometimes I feel like a Madeleine, a long way. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like a motherless child. 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 A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home, a long way from home.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
Thank you.